VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Bonsoir, il est midi à Washington, 18h à Bujumbura. Nouveau massacre à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la nuit, malgré l'opération Ville morte illimitée lancée par la société civile contre l'insécurité dans la région. Le point avec Eddy Issango.
Les habitants de Beni ont manifesté mardi matin pour protester contre ce nouveau massacre, interrompant brièvement la Ville morte illimitée. La police a tiré en l'air pour disperser les protestataires, selon un témoin contacté par VOA Afrique. Les 6 victimes ont été abattues à Kalongo, un quartier situé près de l'aéroport de Mavivi, par un groupe d'hommes en uniforme militaire armé de machettes et autres armes blanches. L'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda, a attribué l'attaque aux ADF. Selon lui, l'armée est intervenue lundi soir et a pourchassé les assaillants qui sont rentrés dans la forêt. La société civile dénonce l'insuffisance d'action contre les massacres répétés dans la région de Beni. Selon Kizito Hang de l'ONG Asado à Beni, la société civile exige un changement du commandement de l'offensive de l'armée à Beni. La mission des Nations Unies au Congo avait aussi formulé presque les mêmes exigences, accusant les officiers à la tête de l'offensive de l'armée congolaise dans la région de graves crimes. Le gouvernement n'a pas cédé et depuis, l'armée congolaise mène seule l'offensive contre les groupes armés.
Un jeune manifestant a été tué mardi à Bujumbura, où les opposants à un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza continuent de manifester à la veille d'un sommet régional à Dar es Salaam qui, il l'espère, convaincra le chef de l'État de renoncer à sa candidature. Un manifestant a été tué par balle dans le quartier Boutéré, près de l'aéroport de Bujumbura. Deux autres personnes sont mortes cette nuit suite à l'explosion d'une grenade dans une maison de Kanyosha. Ce quartier a été souvent le théâtre d'affrontements avec les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. La crise a déjà fait au moins 20 morts. Recouvert d'un drap, le corps de la victime d'aujourd'hui, Amissi, 24 ans, a été porté devant la maison du maire du quartier, Pauline Roura-Totoï, par une centaine de manifestants réclamant que l'édile organise les funérailles. Dispersés par des policiers, les manifestants portant le corps sont revenus à la charge et ont pillé la maison du maire ainsi qu'un véhicule de la commune. Moussa Dadis Camara, candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. L'ex-chef de la junte guinéenne a fait cette annonce en personne hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il vit en exil depuis 2010. Il justifie sa décision par sa volonté de mettre fin, et je cite, « aux souffrances de ses compatriotes ».
Je m'engage en politique pour accélérer l'atteinte de l'objectif principal de notre mission commune, qui est la conquête par la démocratie à la magistrature suprême en Guinée, afin d'apporter aux Guinéens le bien-être social. Les souffrances des Guinéens n'ont que trop duré, et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations marquées de notre chère Guinée. Je vous rappelle qu'un bon leader politique n'a pas d'ethnie ni de religion. Donc, les portes du parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement restent grandement ouvertes à toutes les communautés et religions qui sont les bienvenues pour faire de notre parti un véritable parti national sans étiquette communautaire ni religieuse.
Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne. Propos recueillis par notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouonogo. Moussa Dadis Camara, candidat, écoutons ses réactions à Conakry.
Pour moi, c'est bien parce que c'est un Guinéen comme nous tous. Je pense que ouais, il peut faire l'affaire aussi.
Il a le droit
de se présenter en tant que Guinéen, vu les antécédents du CNDD, vu tout ce qui est en cours, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va encombrer le pouvoir en place?
Moi, personnellement, pendant sa gouvernance, j'ai compris qu'il a été pour moi le premier président qui a gouverné honnêtement et qui peut faire mieux.
Sa candidature est la bienvenue. Elle se présente aujourd'hui. Moi, je vote pour lui parce que j'ai décidé de ne pas voter pour les autres là.
Voilà, ces propos étaient recueillis par notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara. Mali, 8 militaires tués lundi dans le nord-ouest du pays dans une embuscade tendue par la rébellion à dominante Touareg non loin de Tombouctou. Selon Yaya Tandina, journaliste à l'ORTM, la radio nationale malienne, il s'est agi d'une embuscade contre un convoi de l'ONU.
Les dégâts ont été nombreux. Nous avons remarqué la disparition de deux véhicules. Un véhicule sur le terrain brûlé. Ensuite, il y a eu 8 morts, 11 blessés. Et l'armée malienne, de son côté, a fait aussi un prisonnier vivant que j'ai pu interviewer, qui me dit qu'il s'appelle Mohamed Abdel Mouloud.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Un nouveau séisme a secoué tôt cet après-midi le Népal, déjà dévasté il y a 2 semaines par un tremblement de terre. Semant la panique dans la capitale Katmandou, cette dernière secousse a fait ce mardi au moins 35 morts et plus de 1100 blessés, selon le ministère népalais de l'Intérieur, Nicolas Pinot.
Il était midi et demi, heure locale, quand la terre s'est mise à trembler à nouveau à 76 km à l'est de Katmandou. Selon l'Institut américain de géophysique, le séisme était d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti à New Delhi en Inde et provoqué l'effondrement de bâtiments au Tibet. L'aéroport de Katmandou, porte d'entrée principale de l'aide internationale, a rouvert après avoir été fermé quelques heures par précaution. Même si cette dernière secousse ne semble pas aussi grave que celle du 25 avril, les habitants de la capitale népalaise ont été pris de panique à l'idée que ces nouveaux séismes entraîneraient l'effondrement de bâtiments déjà très endommagés. La police népalaise a exhorté la population à rester à l'extérieur et à éviter d'encombrer le réseau mobile. Je vous rappelle que le séisme du 25 avril a tué au moins 8000 personnes au Népal et une centaine en Inde et en Chine. Des dizaines de milliers de Népalais sont aujourd'hui sans abri.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré ce mardi le président russe Vladimir Poutine dans la ville balnéaire de Sotchi. C'est la toute première visite de Kerry en Russie depuis la détérioration des relations au sujet des conflits en Ukraine et en Syrie. Avant sa rencontre avec Vladimir Poutine, M. Kerry a eu plus de 4 heures de discussion avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ces discussions ont porté sur toute une gamme de questions bilatérales et régionales, dont la Libye et le Yémen. Selon une porte-parole du département d'État, les pourparlers avec le président russe devaient également porter sur les négociations sur le nucléaire iranien. Je vous rappelle quelques-unes des nouvelles que nous venons de développer. Un jeune manifestant a été tué mardi à Bujumbura, où les opposants à un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza continuaient de manifester à la veille d'un sommet régional à Dar es Salaam qui, il l'espère, convaincra le chef de l'État burundais de renoncer à sa candidature. Et puis, il y a eu un nouveau massacre à Beni, dans l'est de la RDC. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la nuit, malgré l'opération Ville morte illimitée lancée par la société civile contre l'insécurité dans la région. Les habitants de Beni ont manifesté pour protester contre ce nouveau massacre, interrompant brièvement la Ville morte illimitée. La police a tiré en l'air pour disperser les protestataires, selon un témoin contacté par VOA Afrique. Et puis, cette nouvelle qui continue de défrayer la chronique, Moussa Dadis Camara, qui est candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée, l'ex-chef de la junte guinéenne a fait cette annonce lui-même hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il vit depuis 2010 en exil. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. C'était au micro Idrissa Sédoudia. Prochain rendez-vous dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info.